Il n'y a aujourd'hui ni tournant, ni changement de cap ou de politique.
Ce résultat est historique. Je suis la candidate du peuple.
Cette marche citoyenne, cette insurrection.
Le décryptage de la vie politique en France, c'est maintenant dans RFI Soir. Et c'est avec vous, Émilie Zapalski. Bonsoir. Spécialiste de la communication politique et fondatrice de l'agence Émilie Conseil. Alors, l'actualité politique est dominée aujourd'hui par une pétition publiée dans le journal du dimanche pour exiger la démission d'une ministre, Caroline Cayeux, qui est chargée des collectivités territoriales, et ses positions contre le mariage pour tous, et donc contre les unions homosexuelles. Ça lui revient en boomerang. L'ex-LR a tenté de se justifier en expliquant qu'elle avait, je cite, « beaucoup d'amis parmi ces gens-là ». Malgré ses excuses, c'est un tollé dans l'opposition comme au sein de la Macronie, Julien Chavannes.
De l'ancien chef de gouvernement Manuel Valls à l'ancien ministre Jack Lang, en passant par la première adjointe au maire de Marseille, Michel Rubirola, et par le neuropsychiatre Boris Cyrulnik, il signe un texte dénonçant les propos homophobes de Caroline Cayeux. Une tribune sans poids lourd du gouvernement, mais qui vise à faire pression sur Emmanuel Macron pour qu'il se sépare de sa ministre. La question, écrivent les signataires, est de savoir si le gouvernement, dans son devoir de solidarité, valide la position d'un de ses membres et si la majorité souscrit à son attitude. Certains ministres actuels, comme celui des Transports, Clément Beaune, ont pris publiquement leur distance avec leurs collègues. Caroline Cayeux a présenté ses excuses dans la presse pour des propos, je cite, « stupides et maladroits ». Quelques heures plus tard, ce vendredi, la première ministre espérait la fin de l'histoire. Elisabeth Borne assurait alors que les choses étaient désormais claires. Plusieurs associations de lutte contre l'homophobie ont annoncé vouloir déposer plainte contre la ministre.
Émilie Zapalski, comme Damien Abad, Caroline Cayeux était LR, les Républicains. Comme lui, elle se retrouve empêtrée dans une politique à peine nommée. Comment expliquer ce mauvais karma ?
Alors, vous l'avez dit, hein, elle est LR. C'est vrai qu'il y a eu la même chose avec Damien Abad qui a été nommé à l'époque. Il avait été nommé alors qu'il était accusé de viol et de harcèlement sexuel. On sent qu'il y a la volonté de ces prises de guerre un petit peu à droite, de donner des gages à droite, parce que Emmanuel Macron, à l'Assemblée nationale en tout cas, a besoin de ces voix de droite pour faire passer certaines lois, puisque évidemment l'Assemblée nationale a une configuration complètement différente. Donc il y a cette idée de prise de guerre, et j'allais dire la fin justifie les moyens. Donc on a besoin d'avoir des résultats, peu importe qui on intègre, et on s'en fiche un petit peu des différentes positions.
Sans être suffisamment regardant, finalement.
Sans être suffisamment regardant, on a la haute autorité pour tout ce qui concerne la fiscalité, mais on n'a pas ça sur le plan éthique, et a priori Emmanuel Macron passe complètement au-delà de ça. Mais je pense que, donc il y a cette question à la fois de prise de guerre. Il y a une question aussi de problème de gestion des ressources humaines, enfin de ressources humaines hein, dans les équipes Macron. À chaque remaniement, on met beaucoup, beaucoup de temps pour essayer de trouver du monde, pour équilibrer évidemment femmes-hommes. Il y a ce problème de ressources humaines. Mais au-delà de ça, et beaucoup plus grave, je pense, c'est la question des valeurs, c'est la question de la ligne directrice. Vous l'avez dit là dans le papier juste avant, la tribune, elle est signée aussi bien par des gens de la majorité que par des gens de l'opposition, que par des neuros, voilà, Boris Cyrulnik ou Serge Hefez ou encore d'autres. Ce que je veux dire, c'est que finalement, ces divergences, on les a déjà vues dans la majorité. Ça date pas d'hier, hein, même avant 2017, pendant le premier quinquennat. Moi, je me souviens de la loi Asile et Immigration qui avait fait beaucoup crier sur la partie gauche, en fait, de la majorité. C'est la même chose. C'est-à-dire que le seul dénominateur commun, finalement, le seul vrai dénominateur commun, c'est Emmanuel Macron. Et les valeurs, elles sont très différentes. Il y a beaucoup de divergences. Et on le voit quand ça éclate là-dessus, parce que, évidemment, il y a des gens manifs pour tous, mais il y a des gens qui ne sont pas du tout manifs pour tous. Et dans la société actuelle, ça fait un peu mal.
Et en plus de la canicule, bien demain, ce sera chaud à l'Assemblée nationale. Il faut s'attendre à une avalanche d'amendements et à des votes serrés avec la discussion du projet phare de l'été, les mesures du gouvernement en faveur du pouvoir d'achat. On va y revenir, mais avant cela, Émilie Zapalski, durant la semaine écoulée, le gouvernement a subi un premier revers sur le projet de loi sanitaire, adopté, hein, certes, mais amputé d'un article clé sur le possible retour d'un pass sanitaire anti-Covid pour les entrées dans l'Hexagone. Les députés LR, LFI et RN se sont coalisés contre ce pass. Bref, ça concrétise le résultat des législatives et la perte de la majorité absolue du président de la République.
Oui, c'est les premiers pas de cette drôle d'Assemblée nationale, hein, qui est le choix aussi des Français. Et ça montre à quel point Emmanuel Macron et la majorité n'ont pas réussi finalement ni à créer de coalition, bon ça on l'a vite vu, et ni même à essayer de faire du mode projet. Hein, finalement, c'est la première fois qu'ils essaient de faire passer une loi et qu'on voit bien que ça a des difficultés. Moi je pense qu'Emmanuel Macron a essayé de dédramatiser un petit peu en disant finalement il n'y a pas péril de l'heure et demeure, ça va, il y a eu un petit coup de show nocturne. Il essaie de dédramatiser, mais c'est quand même très, très particulier de gouverner comme ça. Ça va être du mode projet à chaque fois. C'est-à-dire qu'il n'y a pas tellement de vision, c'est on va essayer de faire passer en fonction de qui veut bien faire passer et en donnant des garanties à qui veut bien faire passer la loi.
Et ça, c'était donc un premier coup de chaud, sachant qu'à partir de demain, il y a des mesures avec la revalorisation anticipée de 4% des pensions de retraite, des prestations sociales, l'augmentation de 3,5% du traitement des agents publics, etc. etc. Est-ce qu'il faut s'attendre à ce que les oppositions de gauche et de droite rivalisent de propositions face à l'inflation qui accélère, tout autant pour défendre une conception politique que pour exister?
Ben, j'allais dire, c'est ça, c'est maintenant, c'est l'épreuve du feu. C'est-à-dire qu'on est dans l'opposition pour l'opposition, on l'a vu, hein, on l'a senti dans les prises de position et même les discours à la suite d'Elisabeth Borne, le discours de politique générale. On a entendu une Mathilde Panot, la chef de file de LFI, très très offensive, très agressive même. Donc on sent que les oppositions ont envie d'exister. C'est un peu, encore une fois, ce que leur a demandé les Françaises et les Français, qui est de la discussion parlementaire. Maintenant, on espère en effet ne pas arriver dans une caricature de l'opposition qui serait à défendre. Et ce qui me fait un peu penser, c'est l'amendement qui a été déposé par la France Insoumise sur on change de nom, la prime Macron, la prime enfumage. On n'est pas à la cour de récréation. Il va falloir que les oppositions soient quand même à la hauteur de ce qu'elles veulent faire et de ce que les Français leur ont demandé, la discussion parlementaire.
Revenons maintenant sur le rituel présidentiel, une interview télévisée après le défilé militaire du 14 juillet, jour de fête nationale. Vous avez regardé cet entretien, Émilie Zapalski, qui a duré une quarantaine de minutes. On doit décaler progressivement l'âge de départ de la retraite pour arriver à 65 quand à l'horizon 2030, a affirmé le chef de l'État, reste que le contexte, justement, très difficile à l'Assemblée nationale, atténue très largement les marges de manœuvre du chef de l'État.
Moi, j'ai l'impression que c'est des mots, la réforme des retraites. Depuis le premier tour, la campagne d'Emmanuel Macron qui a relancé cette idée parce qu'il a pensé qu'il pourrait se faire élire par les voix de la droite, il a modifié très largement dans l'entre-deux tours. On sent qu'il y a des mots, il y a la volonté d'aller jusqu'au bout de la réforme, mais maintenant, on la met à 2030, enfin, on est beaucoup plus loin. Donc, c'est du symbole pour essayer de ratisser quand même un petit peu du côté des Républicains, mais c'est quand même beaucoup plus des mots. On sait que les Français sont majoritairement opposés à cette réforme, même si elle est bénéfique, j'allais dire, même si c'est pour revaloriser les petites retraites. Je crois que ça passera pas, on n'arrivera pas à faire de la pédagogie là-dessus, sur cette réforme.
Et puis vous avez observé, lors de cette interview du 14 juillet, qu'Emmanuel Macron a appelé les Français à la sobriété énergétique, mais que derrière lui, on voyait les grands lustres du palais de l'Élysée allumés alors qu'on était en plein jour. Est-ce que cette injonction contradictoire est une faute pour la spécialiste de la communication politique que vous êtes?
Oui, et c'est très étonnant pour ces équipes-là, parce qu'on a vu des réalisations très très bien faites. Je ne sais pas si vous vous souvenez des films de campagne, Le candidat d'Emmanuel Macron, ou les films qui passaient sur Twitter de conversations entre Macron et Zelensky, ou quand il parlait avec Poutine, où c'est complètement léché, la réalisation est parfaite. Oui, c'est une erreur, bon, c'est un peu anecdotique, mais c'est aussi le reflet de ce qui se passe à l'heure actuelle. C'est-à-dire qu'on essaie de mettre des sparadraps dans notre lutte contre le réchauffement climatique. On dit, en gros, éteignez les lumières et on n'y arrive même pas à l'Élysée. On veut faire une campagne de communication qui va coûter une dizaine de millions d'euros. Je pense qu'on n'y est pas. C'est surtout qu'on n'y est pas. C'est qu'on veut vraiment faire du sparadrap sur quelque chose. On en a la preuve. On vit actuellement une canicule supplémentaire. Ça devient plus du tout... c'est normal. Ça devient normal. Je pense qu'on n'est pas au rendez-vous de ce réchauffement climatique. Et c'est dommage, parce que pour ce quinquennat qui a du mal à démarrer, ça pourrait être une ambition de se dire, ben, on y va vraiment, on investit là-dedans et on fait des efforts. Et je pense que les Français, ils sont prêts.
Merci pour ces analyses et commentaires, Émilie Zapalski, fondatrice de l'agence de communication politique Émilie Conseil.